après ce moment de pause. Alors, bon, c'est un exercice impossible, hein, c'est entendu, de faire la moindre synthèse. C'est impossible, donc tout va bien, je me sens plus détendu du fait de savoir que c'est impossible. C'est pourtant un exercice passionnant auquel m'ont convié les professeurs Berthoz et le professeur Clos, qui essaient de tirer ce fameux fil rouge, ces fils rouges. Et c'est passionnant, d'autant plus qu'au fond, c'est peut-être un peu ça la prospective, ce qui est mon métier, ma fonction, c'est d'essayer de voir des fils rouges là où il n'y en a peut-être pas, là où il n'y a peut-être que des traces, et de tirer sur un fil rouge. Bon, c'est peut-être un exercice stimulant. Alors, permettez-moi d'abord en quelques mots un tout petit détour par mon propre métier, si Yves Clos me permet d'appeler ça un métier. Je ne suis pas exactement un chercheur, je ne suis ni exactement un chercheur, ni exactement un manager, vous voyez, on est déjà dans la complexité. Je m'occupe de prospective, ce qui est évidemment un métier impossible. La prospective, vu l'état dans lequel est le futur, de faire de la prospective aujourd'hui, c'est assez désespéré. Et pourtant, même si c'est un métier ou un exercice impossible, c'est quand même un exercice nécessaire, peut-être même indispensable aujourd'hui, de s'occuper de l'avenir. Eh bien, dans une première impression plutôt, c'est que je crois que dans ces deux jours, trois jours, nous avons fait la prospective. C'est un peu ça que je ressens quand même. Peut-être que nous l'avons fait comme M. Jourdain, comme on dit, c'est-à-dire peut-être sans le savoir trop, enfin, pas tout le temps en tout cas. Peut-être même que nous n'en avons pas fait assez. Et ce n'est pas pour rien, parce que je crois que, de manière générale, pas seulement dans le domaine qui nous occupe là, notre rapport au futur est assez particulier. Dans l'ensemble, pas très optimiste, en général. Mais pourtant, je crois que ce qui marque notre rapport au futur, ce n'est pas simplement qu'il serait plus ou moins optimiste ou pessimiste, je crois que surtout, c'est comme ça que je le vois depuis mon métier, c'est que nous partageons assez largement la croyance, parce que c'est une croyance, que l'avenir est imprédictible. Au fond, on est formé à ça maintenant, hein. On sait que la prospective s'est toujours trompée, se trompe tout le temps. Donc nous savons que l'avenir est imprédictible. Nous le croyons. Et en plus, nous le croyons non pas pour des raisons qui seraient, je ne sais pas, transcendantes, générales ou je ne sais lesquelles, mais parce que nous sommes la cause, nous humains, nous sommes la cause de l'imprédictibilité de l'avenir parce que nous sommes bien convaincus que nous vivons dans une société d'innovation. Nous, humains, innovons sans arrêt et de plus en plus et dans tous les domaines. Et c'est parce que nous innovons sans arrêt dans tous les domaines que nous rendons l'avenir imprédictible. Alors, dans ce contexte-là de notre perception de l'avenir, dans ce sens-là, la prospective, dans ce contexte-là, c'est évidemment pas d'essayer de faire des prédictions, puisqu'on sait qu'elles seront fausses. Et pourtant, la prospective, c'est peut-être quand même quelque chose. Alors, de ma pratique, ce que je vois de la prospective, c'est que la prospective, c'est au fond d'essayer de repérer des paradigmes émergents. De lire des paradigmes, des grandes mutations conceptuelles, des émergences ou au moins des dérives paradigmatiques, comme on dit, les dérives des continents. Et ce qui rend possible un exercice de prospective, parfois du moins, c'est qu'il y a des vitesses d'évolution différentes. Il y a des choses qui changent vite, il y a des concepts qui changent plus lentement. Des choses qui changent plus lentement. Et c'est ce différentiel dans la vitesse d'évolution qui rend possible et même nécessaire un exercice de prospective. Alors j'ai vraiment l'impression que nous en sommes là, y compris dans le domaine du travail. Alors en tout cas, l'exercice de lecture de paradigme, c'est ce que je fais dans mon domaine. Mon domaine à moi d'expertise, ou en tout cas de connaissance, c'est les transports et la mobilité urbaine. Vous voyez que c'est loin du travail, même si ça recoupe beaucoup. Et un exercice que je fais fréquemment, c'est de présenter le changement de paradigme de la mobilité urbaine, parce que ça change énormément actuellement. Or, j'ai vraiment l'impression qu'au cours de ces trois jours, à travers tout ce qu'on a entendu, que le travail est en train de quitter un paradigme. Le paradigme perdu, pour jouer sur les mots, du contrat de travail, peut-être. Hein, on a l'impression qu'il y a eu un paradigme perdu, qui, comme tous d'ailleurs, est plus ou moins un mythe, un rêve. C'était, je me souviens que le premier jour, hein, M. Werkindt a parlé du paradigme contractuel. Dans son langage de juriste, c'était ça qui marquait le paradigme contractuel. J'ai essayé de l'interroger un peu à la pause pour savoir qu'est-ce qu'il pensait d'une idée de changement de paradigme. Il m'a dit que Il préférait ne pas dire changement de paradigme, mais se contenter de dire, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence, déformation de paradigme. Non seulement il ne préférait pas parler de changement par prudence, mais également, m'a-t-il dit, parce qu'il ne sait pas du tout si ça va vers un autre, vers un nouveau paradigme, et encore moins lequel. Mais en tout cas, on a donc cette perception-là, peut-être, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, qu'on a eu un paradigme, ou qu'on se projette dans le passé, il y en aurait eu un de paradigme, et qu'on est en train de le quitter. Alors il serait en tout cas bien présomptueux de ma part, même à la faveur de mon ignorance, de prétendre esquisser ce que serait le changement de paradigme du travail tel qu'il se dégagerait de nos échanges pendant ce colloque. Cependant, en relisant mes notes hier soir, j'ai été frappé par quelque chose. C'est que les catégories, les grandes catégories par lesquelles j'ai l'habitude moi-même de décrire les grandes mutations conceptuelles dans le champ des transports et de la mobilité, très curieusement, recoupent étonnamment, à mon avis, les mutations et les remous du travail. Ça m'a paru, c'est très curieux. Les catégories m'ont paru très semblables. Je ne sais pas si c'est un effet subjectif, mais ça m'a paru d'avoir beaucoup de recoupements. Donc je vais utiliser les quelques minutes que j'ai là pour, en une seule planche de PowerPoint, si on peut l'installer, montrer ce parallélisme entre les changements de paradigme dans la mobilité et les changements de paradigme dans le travail tel que je les perçois. Je voudrais dire simplement, avant de montrer ce parallélisme, que ce que j'entends par paradigme ici, dans l'exercice de ma réflexion sur le transport, c'est un changement de paradigme, ça porte simultanément sur trois catégories d'objets. Le changement de paradigme, c'est à la fois sur les usages, les pratiques ou les valeurs, c'est à la fois sur les outils et les moyens, et à la fois sur les acteurs, leurs stratégies et leurs organisations. S'il y a paradigme, c'est précisément qu'on a une simultanéité des basculements. C'est ça qui fait paradigme. Et c'est ça qui est intéressant à analyser, de voir comment il y a une certaine cohérence, y compris dans les perturbations ou dans les bouleversements. Il y a une cohérence des bouleversements sur plusieurs plans. Dans les transports, c'est très clair. Et en tout cas, c'est ce qui fait l'intérêt d'essayer de dresser le portrait d'un paradigme. Alors là, pas capable, évidemment, et ce serait d'ailleurs tout à fait encore hors de propos, de tracer le changement de paradigme du travail. Donc, je vais simplement faire l'exercice de voir comment la façon de raconter ce changement de paradigme dans les transports recoupe dans une certaine mesure ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le travail. Alors, voilà ça c'est uniquement une petite planche qui montre le changement de paradigme dans le transport, sur un aspect seulement, qui est l'aspect usage et valeur. Usage, pratique et valeur. Il y a aussi les autres aspects qui sont les outils et les moyens, et un troisième qui sont les acteurs et leurs organisations. Je n'en parle pas, ce serait trop compliqué. Mais c'est bien entendu la totalité des facettes qui fait qu'on a un paradigme cohérent, ou en tout cas une vision d'ensemble des bouleversements. Mais alors, si vous regardez quand même cet ensemble, cette série de plans sur lesquels se produit le changement paradigmatique du transport. Alors ce changement, d'ailleurs, je l'appelle personnellement le passage d'un paradigme A à un paradigme B, c'est encore plus simple comme ça. Le paradigme de départ, c'est ce qu'on peut appeler le paradigme du transport, précisément, on dit aussi la circulation, le trafic. C'est le vieux paradigme. Nous y sommes encore, comme tous les paradigmes, on y est encore, bien qu'on l'ait déjà quitté. Et il y a un nouveau paradigme qui est en train d'émerger dans ce domaine-là, qui est celui de la mobilité. Et c'est extrêmement différent dans notre domaine, de passer du transport à la mobilité. Extrêmement différent. Pourquoi c'est différent? Et là, vous allez voir par vous-même les analogies avec le champ du travail, que j'esquisserai un tout petit peu les analogies. On est en train de passer, en changeant de paradigme, on a un nouveau rapport à toute une série de choses. Premièrement, nouveau rapport à la personne, dont on a beaucoup parlé pendant ces trois jours. Dans les transports, c'est simplement qu'en effet, on n'a plus le transport, c'est une gestion de flux, pour dire vite. Et les flux sont faits de particules homogènes, qu'on appelle les voyageurs. On les traite bien, mais ce sont des particules, ce sont presque des paquets très précieux, certes. Dans la mobilité, c'est tout à fait différent. Quand on change de paradigme, on a affaire à des personnes actives, la personne mobile. L'objet de la mobilité, c'est la personne mobile active qui a un cerveau, avec le professeur Batos, on a bien vu le cerveau du voyageur, en quelque sorte, qui a un cerveau, qui a des jambes, qui a un corps, qui a des émotions, etc. Le passage de transport de flux, de gestion de flux, à mobilité des personnes, un changement radical. Donc, nouveau rapport à la personne, complètement différent. La personne fait son apparition dans le transport, et c'est ça la mobilité. Donc, nouveau rapport à la personne, je ne veux pas décliner en détail, hein, nouveau rapport à la personne, nouveau rapport au temps. Alors là, c'est fondamental. Le temps du transport et le temps de la mobilité, ça n'a rien à voir. Le temps du transport est un temps perdu qu'il faut raccourcir. C'est tout. C'est très clair. C'est un temps homogène qui est le même pour tous, qui est le même tout le temps, etc. Le temps de la mobilité, c'est extrêmement différent. C'est un temps qu'on rend utile. On le gagne en le prenant. Alors que le temps du transport, on le gagne en le raccourcissant. Le temps de la mobilité, c'est un temps qui change avec le jour et la nuit, les saisons, etc. etc. C'est un temps réel. Il a énormément de propriétés différentes. Ce n'est pas le même temps. Vous voyez, on passe d'un temps à un autre temps, ou un autre rapport au temps. Troisièmement, je l'ai balayé très rapidement, rapport au corps. Le corps dans la mobilité, ce n'est pas du tout pareil. Dans les transports, le corps, il faut simplement à peu près le maintenir en l'état. Il faut que le voyageur sorte à peu près le même qu'il est rentré, si possible. Dans la mobilité, pas du tout. La mobilité, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus que la mobilité, ce n'est pas simplement pour aller d'un point A à un point B. La mobilité, ça fait du bien. Ça dépend laquelle, la mobilité. On va discerner les différentes formes de mobilité selon le bien qu'elles me font, non seulement à mon corps, mais à mon cerveau, et aussi à ma vie sociale. La mobilité, c'est bon, c'est du développement, au fond. On peut associer de plus en plus mobilité et développement personnel. Donc, un rapport au corps complètement différent. Le corps de la personne mobile, c'est une découverte de plus en plus que nous étudions. Nouveau rapport au lieu, fondamental. Dans le transport, le lieu, c'est origine-destination. Dans la mobilité, le lieu, c'est l'individu lui-même qui fait lieu, c'est les étapes qui font lieu, etc. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Nouveau rapport aux autres, nouveau rapport... Là, c'est amusant, c'est nouveau rapport au travail, parce qu'évidemment, dans le transport, le travail, c'est le bout du transport. Domicile-travail, voilà. Le transport, c'était du domicile-travail. Aujourd'hui, le travail n'est pas dans le lieu de travail. On en a beaucoup parlé. Bon. Nouveau rapport à l'environnement, etc. Et puis, peut-être, et pour finir, ce basculement paradigmatique, c'est un changement de valeur. Peut-être que ça aussi, on va le retrouver dans le travail. Un changement au niveau des valeurs. La valeur du transport, c'était d'aller vite et loin. C'est très simple, au fond. Aller vite et loin. Un système de transport a d'autant plus de valeur, d'intérêt, qu'il va vite et loin. TGV, le TGV dans son nom, qui a beaucoup changé dans sa pratique, puisque désormais, on travaille dans le TGV. Mais TGV voulait dire grande vitesse. Aujourd'hui, on mesure l'intérêt du TGV, pas seulement parce qu'il va vite, mais parce qu'il y a des prises électriques qui permettent de travailler. Donc, on passe de vite et loin à créer des liens. Oui, la mobilité, c'est ça. Bon, je ne rentre pas, évidemment, dans tout ça. Mais, et là aussi, sans détailler, je trouve qu'on pourrait balayer toute une série de ces pans du changement paradigmatique pour s'apercevoir qu'évidemment, on en a beaucoup parlé pendant ces 3 jours. La question de la personne, pour prendre le premier thème, est évidemment au centre. On s'est dit plusieurs fois, je me rappelle les interventions de la première journée, notamment des juristes, c'est très intéressant pour ça. Là où se voit la question de la personne, c'est qu'on passerait, ou qu'en tout cas on a une tension, entre droit du travailleur et droit de la personne. Cette espèce de symétrie, d'alternative, est très, très importante, avec tous les risques qu'elle comporte, évidemment. Mais l'émergence de la personne dans le travail a l'air d'être tout à fait un des thèmes au centre de nos discussions, et c'est arrivé de beaucoup de façons. Hein. La question d'ailleurs de l'autonomie sous contrainte, enfin, on en a parlé tellement pendant ces 3 jours. L'autonomie et la coopération. Je pense aussi à la conférence de ce matin qui était si intéressante de Rosan Vallon sur le travailleur indépendant. On a revu ça sous encore une autre forme. Il est important, on a vu la question des émotions, bien entendu, hein, qu'on pourrait voir aussi sur le rapport au corps. Donc voilà, rapport à la personne, je trouve qu'il va falloir, je ne le fais pas évidemment, mais ça serait intéressant si on prenait ce genre de grille d'analyse, de remplir en quelque sorte les cases. En quoi le paradigme émergent du travail, pour autant qu'on puisse dire ça comme ça, hein, c'est mon jargon à moi, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme ça, mais pour autant qu'on puisse parler d'un paradigme émergent du travail, il y aurait la case nouveau rapport à la personne qui serait fondamentale. Rapport au temps, on en a parlé très abondamment, soit en négatif, soit en positif, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le changement de paradigme n'est pas un passage d'un état pas bon à un état idéal, pas du tout. Le changement de paradigme, ça peut être pire. Enfin, ça peut être mieux et pire, ce n'est pas une question de valeur. Hein. Le rapport au temps, c'est est-ce que c'est la pression temporelle ou au contraire la liberté, de la flexibilité ou les deux à la fois. Le nouveau rapport au corps, il en a été question beaucoup, notamment par l'insistance sur les émotions un peu partout, et c'est très important, y compris pour les transports d'ailleurs. Comment la personne mobile est siège d'émotions qui lui servent à quelque chose. Nouveau rapport au lieu. Alors, on a dit assez que l'usine a éclaté. Alors c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui se substitue. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui a disparu, mais quel est le nouveau lieu du travail. Est-ce que la notion de lieu du travail prend un visage nouveau ? Là, je ne fais que poser les questions. Dans mon domaine du transport et de la mobilité, il ne s'agit pas simplement de dire que les anciennes catégories ont disparu, mais qu'est-ce qu'elles deviennent ? Et donc, pour ce qui est du transport et de la mobilité, on peut aujourd'hui dire qu'est-ce qu'un lieu de la mobilité qui n'est pas un lieu du transport ? C'est ça, c'est le remplacement du paradigme. Nouveau rapport à l'environnement. Alors, je ne sais pas si pour le travail, ça compte, mais pour la mobilité, c'est clair. Est-ce qu'il y a un nouveau rapport aux dimensions environnementales, etc. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je trouve que, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai vécu ces trois jours comme étant un moment entre une prise de conscience de plus en plus partagée que le travail, à la fois, n'est plus ce qu'il a été, mais à la fois, je trouve qu'on a senti, il y a eu une oscillation, vraiment, hein, entre, y compris au plan affectif, entre des moments, sinon de pessimisme, du moins d'inquiétude, et des moments, au contraire, où on a vu apparaître les potentiels. Je me souviens d'une remarque dans la discussion de M. Davzi, dont pourtant le propos n'était pas tellement euphorique, mais qui quand même, dans la discussion, a dit « il ne faut pas oublier que tout ça, c'est aussi du potentiel, c'est beaucoup de potentiel ». Et donc la question de savoir comment on peut aujourd'hui passer d'une perception de quelque chose qu'on a perdu et qui était peut-être en partie mythique, vers un nouveau visage, un nouveau portrait du travail. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Thank you.